BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission, le club BFM Crypto. On a plein de sujets, un temps limité, il va falloir être concis et percutant. C'est une phrase de vous, hein, Louis-Alexandre Froissart. On va essayer de faire ça aujourd'hui. On va parler d'euros numériques, de stablecoin, d'agrément MiCA, de Bitcoin, tout ça en 25 minutes avec mes invités. Grégory Raymond, cofondateur de The Big Wave. Bonjour Grégory. Louis-Alexandre Froissart, donc gérant et associé chez Montaigne Conseil et Patrimoine.
Bonjour Sandra.
Bonjour. Nathalie Janson est avec nous également, économiste, professeur à la Neoma Business School, fondatrice de Génération Libre. Bonjour.
Présidente, sinon,
pardon.
Je suis pas,
pardon, Nathalie.
J'espère que Nick va.
Vous avez raison de me corriger. Et Laetitia Zito, qui est à distance, directrice générale de Paymium. Le club, c'est parti. Vous savez que vous pouvez nous écrire crypto@bfmbusiness.fr. Allez, on y va. Laetitia Zito, je commence par vous. Vous êtes à distance, donc encore une bonne nouvelle dans BFM Crypto aujourd'hui. Paymium qui obtient son agrément MiCA. Vous êtes quoi, 19e acteur en France ?
Oui, on est dans le... à peu près, oui, 26 acteurs aujourd'hui en France, il me semble. Hein,
bon, voilà.
Au total.
C'est une bonne nouvelle.
Ouais. C'est une excellente nouvelle, on est ravis, merci.
Quel investissement, rappelez-nous, parlez-nous un petit peu de ces 18 derniers mois de mise en conformité.
Ouais. Ça a été très long parce que c'est vrai qu'on avait un dossier assez complexe. On est la seule plateforme de négociation qui est agréée en France. Il y a d'autres acteurs en Europe, mais pas beaucoup. 17 à ma connaissance. Donc, c'est peu d'acteurs sur tous les acteurs européens. Donc, c'était un dossier particulièrement complexe. Donc, ça a été un processus de plus de 2 ans entre la préparation du dossier, le dépôt auprès du régulateur. Ça a été des mois intenses.
Ouais. Ouais. Et les projets pour la suite, ça va permettre quoi ? Une fois que l'été sera passé, on pense à quoi maintenant ? On va rediriger toutes ces forces vers quel chantier ?
Mais oui, c'est reprendre les chantiers qu'on n'a pas pu développer ces derniers temps. Pour les clients, ça changera pas énormément de choses. On va avoir des nouveaux produits qui vont arriver, on les annoncera en temps venu. Pour Paymium, ça change pas mal de choses. Ça va nous donner l'accès, bien sûr, au marché européen, une crédibilité institutionnelle, l'accès à une nouvelle typologie de clientèle qui était très attentive à l'obtention des agréments. Donc tout ça, pour tous ces projets, on est ravis.
Votre avis, parce que je pose cette question beaucoup cette semaine, on a eu un chiffre il y a 2 jours, 5% seulement des entreprises européennes ont eu l'agrément MiCA, 5%. C'est quand même un chiffre assez percutant, non ?
Oui. C'est assez percutant, c'est important, mais en même temps, c'est un secteur qui a beaucoup besoin de se structurer pour aller dans le monde de la finance traditionnelle. On espère pour Bitcoin, pour les cryptos, qu'elles vont rejoindre le statut de finance traditionnelle. Donc, c'est vrai que c'est des exigences qui sont très lourdes. Moi, si je pouvais regretter une chose de MiCA, c'est qu'elle n'ait pas prévu le statut d'agent pour permettre à toutes ces petites structures de continuer à opérer et continuer l'innovation. C'est peut-être le petit point qui manque à MiCA, version 1.
Oui, effectivement. Bon, on a vu quand même que ceux qui ont MiCA, comme on continue à innover, continue à sortir des produits. On a parlé avec Bitstack hier, qui justement va aussi vers la finance traditionnelle. Donc, il y a des bonnes choses qui arrivent une fois qu'on a cet agrément. Hein. Mais quel chemin, Grégory Raymond ?
Tout à fait. Bon, comme le disait Laetitia très bien, c'est surtout un point de départ, quoi. Parce que voilà, là, il y a tout à faire. L'agrément, c'est juste ce qui vous permet de continuer à opérer. Il faut pas oublier, et bien sûr, que ça a pris énormément de temps, d'argent, en fait, à toutes ces sociétés pour s'agréer. Le ticket moyen, hein, c'est autour d'un million d'euros quand même, hein, pour avoir cet agrément, si tant est qu'on l'a à la fin, parce que pas tout le monde ne l'a eu. Il y a encore quelques dossiers en souffrance, donc on attend encore au moins une ou deux entreprises qui devraient l'avoir d'ici le prochain collège de l'AMF, qui, le dernier, me semble, se tient le 3 juillet. C'est après la date limite. Donc, qu'est-ce qui va se passer après pour toutes les entreprises qui sont encore en souffrance? On a aussi parlé de Binance, hein. Binance qui ne devrait pas l'avoir au 30 juin. Donc, ils ont des millions de clients. Qu'est-ce qu'on va faire de ces clients?
Nathalie, un avis sur cette question, sur cette transition du marché?
Bah oui, et le marché en fait va ressembler à d'autres marchés, donc on peut effectivement regretter de pas avoir eu des intermédiaires, des statuts un peu intermédiaires avec moins de lourdeur. Non seulement c'est un coût comme il a été rappelé, mais de toute façon c'est un coût qui va durer puisque la mise en conformité, elle doit avoir un suivi. Donc c'est pas comme s'il y avait un coût et puis plus rien, mais c'est un coût qui va effectivement elles se sont structurées avec maintenant désormais une partie partie de compliance qui ne va pas changer.
Oui, Alexandre.
Oui, c'est le 2 juillet, d'ailleurs, qu'a lieu ce dernier comité. Et on a eu un message de l'AMF qui a dit que pour ceux qui n'étaient pas encore agréés, mais qui savaient que globalement, ça allait être annoncé le 2, ils n'avaient pas de mesures particulières à prendre pour ces 2 jours de fonctionnement. Mesures vraiment d'accompagnement extrêmement fortes.
Ouais, ouais. Et pendant ce temps-là, l'autorité européenne des marchés financiers, elle a publié la procédure, ça y est, pour finalement la procédure à suivre pour les entreprises qui devront cesser leur activité. Donc là aussi, on va entrer dans quelque chose d'autre pour ces 95% d'entreprises européennes.
Oui, ça va être compliqué. Hein, ouais. Ou les clients vont être capables de sortir tout seuls, ou alors les comptes vont être récupérés par des partenaires qui, eux, ont été agréés.
Ouais, oui, là, on va voir comment ça va se redessiner. En fait, parce que souvent, on peut avoir des parallèles avec les secteurs bancaires il y a très longtemps. Et voilà, pour certains types de comptes, effectivement, ils vont être récupérés. Parce que ça a un avantage. Mais pas tous, pas forcément.
Laetitia Zito, pour finir, vous avez peut-être, pour regarder un petit peu ce qui se passe, les concurrents qui vont effectivement, devoir passer la main, devoir fermer. Peut-être que vous allez pouvoir récupérer quelques clients, quelques profils. J'imagine.
C'est des choses qu'on regarde attentivement. Ouais. Il faut le faire de façon ordonnée pour que ce soit toujours au service des clients. Donc, bien sûr, s'il y a des clients qui peuvent venir chez nous, on les prendra volontiers et on le fera en conformité.
Il va falloir beaucoup être très pédagogique dans cette période, Nathalie Janson. Ouais. Bien expliquer les choses, comment on clôt ses comptes, comment on transfère ses fonds. Il va vraiment falloir expliquer les choses. Merci, Laetitia Zito. Vous réagissez, si vous voulez, à la suite de l'actu. Une autre actu chaude, Grégory Raymond. C'est la Commission économique du Parlement européen qui a voté hier l'adoption de l'euro numérique. Alors, c'est bon, ça veut dire que c'est lancé officiellement, on y va ?
Alors, pas tout à fait. Donc là, que vous le disiez très bien, ça a été voté en commission, pas encore en séance plénière, ça sera en juillet. Mais en tout cas, il n'y a plus rien qui peut arrêter l'euro numérique. Nous aurons bien ce projet entre les mains, nous, citoyens, à partir de 2029. Bon, il va se passer un peu de temps d'ici là. Il y a un pilote qui va être lancé en 2027. Et voilà, on n'a jamais été aussi proche.
De quoi on parle précisément quand on parle d'euro numérique ? On peut le redire peut-être. Qui ça va servir ? Qui va s'en servir concrètement ?
Alors, on va faire un petit peu d'histoire pour commencer. En fait, pourquoi cet euro numérique est sorti du chapeau de la Banque Centrale Européenne ? C'est parce qu'il y a, en 2019, donc ça fait 7 ans, Facebook, Meta, son nouveau nom à l'époque, avait sorti un stablecoin, une crypto-monnaie vraiment qui était qu'ils auraient émis eux-mêmes. Le projet s'est arrêté.
Le Libra.
Le Libra, exactement. Le projet s'est arrêté, mais la BCE en fait avait décidé de créer un peu un projet concurrent, un projet souverain pour que les entreprises privées ne prennent pas le pas sur la monnaie. Voilà, l'euro numérique, ça vient de là. Et en fait, il faut le voir comme un équivalent du cash, mais dans l'espace numérique. Alors ça peut paraître un peu abstrait parce que le cash est déjà numérique, mais pas la monnaie centrale. La monnaie centrale, c'est les billets et les pièces. Ce qui fonctionne avec nos cartes de crédit, finalement, c'est que de l'écriture comptable en fait entre les banques. C'est pas de l'argent réel. C'est juste les banques qui se prêtent de l'argent entre elles.
Ouais.
Là, vraiment, l'euro numérique, c'est l'équivalent d'une pièce ou d'un billet dans l'espace numérique. Voilà, la proposition, c'est ça.
Ouais. Alors quand on sort une proposition, c'est qu'il y a un besoin en face. Là. Concrètement, on répond à quel besoin, à quel problème avec cet euro numérique, hormis cette histoire de Libra à l'époque.
Bien sûr, on ne parle plus de Libra aujourd'hui, mais là, en fait, on vous parle des dépendances technologiques qu'on a avec les systèmes de paiement internationaux type Visa, Mastercard. Il y a aussi une affaire qui a beaucoup fait parler ces derniers mois. Il y a le juge français de la Cour pénale internationale, le juge Guillou, en fait, qui était mis sous sanction internationale par la Maison Blanche de façon unilatérale. Et en fait, il ne peut plus utiliser sa carte Visa, sa carte Mastercard, il ne peut plus utiliser PayPal. En fait, c'est un peu comme s'il était de retour au début des années 90. Donc, il paye en espèces ou en chèques. Donc, ça pose un problème. Il faut qu'on développe des systèmes de paiement souverains européens où, en fait, quelqu'un à la Maison Blanche ne puisse pas, en fait,
avoir la main mise là-dessus. Mais on n'en a pas déjà?
En fait, si. C'est ça qui est un peu perturbant parce que les promoteurs du projet d'euro numérique nous disent qu'un peu, il n'y a que ça comme solution. En fait, non, il y a plein de solutions, mais d'émanations privées qui existent depuis un moment. Vous voyez le petit logo CB qu'il y a sur nos cartes bancaires ? En fait, ça représente le groupement cartes bancaires, qui est en fait un groupement privé qui a en fait créé un système de paiement pour les cartes bancaires en France. Quand vous faites une transaction en carte bancaire en France, à 90%, c'est pas Visa que vous utilisez, c'est le réseau CB. Donc on a déjà un truc souverain en France. Dans d'autres pays, il y a un peu ça. En Allemagne, il y a ça aussi. Il me semble qu'en Pologne aussi, en Italie aussi. Juste, en fait, personne se parle. Mais on a déjà, en fait, des initiatives comme ça. Et on a aussi, depuis plus récemment, Wiro. Wiro, ça permet de faire du paiement entre amis, de pair à pair. C'est un peu la suite de Lydia, hein, pour ceux qui connaissent. Et en fait, ça permet de faire du virement instantané à partir juste du moment si on connaît le numéro de téléphone de quelqu'un. C'est vraiment parfait. Ouais. Et ça, c'est pan-européen. C'est disponible partout. Si tant est que votre banque fait partie du consortium, on l'a, notre système souverain, en réalité. Hein.
Alors, du coup, ça va faire concurrence à ces systèmes-là ça va vraiment entrer en concurrence.
C'est ça le problème. En fait, là, on va nous mettre un projet public. Il y a pas de mal à avoir des projets publics, mais si ça concurrence une initiative privée qui fonctionne déjà bien, qui a investi beaucoup pour que ça marche, et en plus le projet du euro numérique ne va arriver qu'en 2029. Il faut parier sur ce qui marche aujourd'hui, ce qu'on peut améliorer.
Encore plus de produits de ce genre en 2029. Enfin, c'est dans 3 ans, hein, Nathalie Janson.
Ouais, ce qui est un peu paradoxal, bon, de toute façon, je ne suis pas une grande fan de l'euro numérique de détail, c'est que, en fait, on a bien vu qu'en Suède, ils ont fini par le suspendre par, effectivement, manque d'utilisation, en fait, de cas d'usage. Donc, ouais. Ils ont trouvé qu'en fait, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et Dieu sait si la Suède avait connu une chute de ses paiements en espèces. Donc, ils avaient un autre sujet, c'était pas pour eux, c'était pas Libra le problème.
Oui, le sujet principal, c'est le contrôle des flux. Mmh. C'est le président de la Banque des règlements internationaux, Augustin Cartens, qui l'a dit il y a quelques années. Avec le cash, ils n'ont pas le contrôle. Avec l'euro numérique, ils auront le contrôle absolu des mouvements monétaires. C'est pas de moi, c'est de lui.
Mmh. Il y a une question de coût aussi, pour finir.
Ah bah ça coûte très cher.
Alors, le coût qu'on nous donne, c'est pas le coût que les banques donnent. Hein.
Ah oui,
il y a un léger décalage.
Déjà, il y a un coût public, donc pour développer le projet, la Banque Centrale Européenne, elle va devoir peser, enfin nous, en tant que contribuables européens, on va devoir poser 1,4 milliard d'euros. Bon, c'est déjà important, mais pour les banques, pour mettre à niveau tout leur système, alors la fourchette, elle est extrêmement large. Les banques, elles jouent aussi un peu à se faire peur là-dessus, elles ont tout intérêt parce qu'elles ne veulent pas de ce projet-là qu'on leur impose. La fourchette, c'est entre 18 et 32 milliards d'euros sur plusieurs années. La moyenne par banque, on est sur du 110 millions d'euros. Donc c'est quand même assez important. Mais moi, le risque réel que je vois pour les banques, c'est le fait que les gens, ils auront plus envie d'avoir un compte en euro numérique plutôt qu'un compte dans n'importe quelle banque. Parce que votre banque, en fait, elle peut faire faillite. L'euro numérique, donc la BCE, ne peut pas faire faillite. Donc, vous aurez intérêt à mettre le maximum dessus. Il y aura un seuil, on ne pourra pas tout mettre. Ça devrait être autour de 3000 euros. Mais si la plupart des Européens, en fait, garnissent, en fait, leur compte euro numérique, ça fait que 10% des dépôts qui sont actuellement dans les banques vont se retrouver ailleurs. Et si les banques ont moins de dépôts, elles pourront moins prêter d'argent, en tout cas dans des conditions moins avantageuses. Il y a aussi tout ce sujet-là.
Voilà, mais enfin bon, c'est en route, hein, de toute façon. On a beau dire ce qui ne va pas dans ce projet-là. C'est parti, ça a été en partie voté. Le processus est lancé. Nathalie Janson, pendant ce temps, stablecoin. Vous avez lu un article, et l'auteur de cet article s'inquiète de la valeur des stablecoins, notamment quand elle passe sous la valeur de 1 dollar. Alors, moi, je ne savais pas qu'un stablecoin pouvait perdre de la valeur dans la mesure où il était adossé au dollar.
Alors en réalité, avec les frais de transaction, et puis il y a toujours, en fait, il n'est pas tout le temps égal à 1, frais compris. Il y a eu déjà pas mal d'études académiques, cette fois documentées, sur effectivement le stablecoin qui n'est pas si stable que ça, mais quand on parle de variations, elles sont très faibles.
Oui.
Et la raison pour laquelle les acteurs qui les utilisent continuent à l'utiliser, c'est parce que c'est négligeable par rapport aux avantages que représente son utilisation. C'est-à-dire, c'est toujours pareil, c'est du 24 heures sur 24,
c'est de la 7
jours sur 7, c'est de la rapidité qu'on n'a pas ailleurs. Donc, à nouveau, les stablecoins ont eu énormément de succès aussi à l'étranger. Donc là, c'est pareil, quand on considère des acteurs qui sont à l'étranger, en Argentine, au Venezuela, bah eux, quelques petits millièmes de dollars de transaction, ou même centièmes de dollars, après tout, vu le chaos qu'ils ont autour d'eux, c'est pas grave non plus. Donc, en fait, on revient, c'est un argument qui tourne en boucle. On est à nouveau sur, mais si les stablecoins continuent à grossir, on va avoir un problème si jamais les utilisateurs perdent confiance et retirent leurs stablecoins en même temps. Mm-hmm. Donc là, on retourne encore sur cette mélodie. Alors effectivement, l'auteur fait référence à un plus grand DPEG, parce que celui auquel je fais référence, c'est juste de l'utilisation quotidienne. Il faisait aussi référence au DPEG de Circle quand il y a eu la faillite de la Silicon Valley Bank, parce que là il avait jusqu'à 10% de ses réserves, mais il a pas duré très longtemps. Alors on vous dira oui, c'est parce que là, il y a eu la garantie de la Fed qui a résolu le problème. Néanmoins, je pense qu'avec 10%, il pouvait quand même s'en sortir. Je pense pas que les utilisateurs l'auraient laissé tomber parce que il avait seulement 10% de ses réserves, ouais, qui étaient dans cette banque. C'est quand même pas la fin du monde non plus. Maintenant, ce qui est paradoxal dans cette histoire, donc là il retourne sur cet argument. Il compare du coup avec les fonds monétaires, parce que faut se rappeler, pour ceux qui étaient à l'époque en plein dans le tourbillon, qu'en 2008 aux États-Unis, les fonds monétaires étaient en difficulté parce que les fonds monétaires en fait étaient des concurrents des banques, si on veut simplifier, et il y a beaucoup de déposants en fait qui ont, au moment de la crise, qui ont liquidé leurs comptes, et un stablecoin ça ressemble effectivement à ça, puisque le Tether au Circle était mis, et en fait il détient, pour maintenir son 1 contre 1, il va détenir des titre du marché monétaire.
Okay.
Donc, ils comparent et disent, vous voyez bien qu'en 2008, quand il y a eu cette panique, eh bien, ils étaient en difficulté. Alors, oui, mais pour deux choses, enfin, déjà, il y a deux choses importantes à se rappeler. À l'époque, les fonds monétaires, c'était quand même déjà plus de 4000 milliards. Donc là, on est quand même assez loin. Alors, je souhaite au stablecoin d'atteindre les 4000 milliards de capitalisation, mais ouais, aujourd'hui, tout compris, on est à 300 milliards. Donc, on est quand même pas, c'est pas la même mesure. Et il faut rappeler que c'est les fonds monétaires, ce sont eux-mêmes, effectivement, se sont mis une contrainte de 1 contre 1. Tether aussi peut avoir cette contrainte, mais historiquement, il faut se rappeler que les monnaies privées, là je renvoie à un grand passé, les monnaies privées, ça leur arrivait effectivement comme d'avoir des DPEG de courte durée. Donc après, c'est un choix, il n'y a pas de fatalité et on n'est pas obligé de garantir. C'est ça qui est énervant dans ces discours, c'est qu'en fait, les gens s'adaptent. La raison pour laquelle ils vont l'utiliser, c'est parce que ça leur rend des services. Alors effectivement, les stables sont beaucoup utilisés en finance décentralisée, oui, pour garantir des prêts. Donc effectivement, tant que les gens le savent, et là pour le moment on n'a pas l'impression que ceux qui utilisent se drapent derrière une espèce de garantie ultime, donc je ne vois pas où est le problème. Et deuxièmement, qui plaide en faveur de surtout rien faire, de ne pas continuer à vouloir aller plus loin dans l'argumentation, mais c'est déjà trop tard, c'est qu'en fait ce qui permet aussi à stabilité, c'est la diversification de la composition de leurs réserves. Or le Genius Act, comme en fait dans Mika, malheureusement on veut en fait l'homogénéiser, et c'est vraiment la pire des choses quand on a cette problématique en tête de la stabilité du stablecoin.
Voilà, ça c'est dit, argument rejeté donc par Nathalie Janson dans cette émission. On se dépêche parce que on a beau vouloir être concis et percutant, on n'en a pas moins besoin d'un peu de temps pour parler de Bitcoin. Louis-Alexandre Froissart, votre sujet aujourd'hui, le rapport River. Quel sujet pousse à l'option de Bitcoin en 2026? Et vous retenez trois points majeur dans ce rapport, Louis-Alexandre.
L'avantage d'intervenir sur ce plateau, c'est qu'on cherche des sujets et ça me permet de parcourir des études. Et j'ai pris une étude de River qui date plutôt début de l'année, plutôt mars, et dans laquelle on revient sur la détention de Bitcoin, qui détient du Bitcoin et quels sont les grands flux, et surtout l'anticipation pour 2035. Alors le pic en 2024, c'était plus de 15 millions de Bitcoin étaient détenus par les particuliers en 2024, et c'était le pic. Le reste, après, il y avait 3 millions détenus par des institutionnels, ouais, un peu moins de 2 pour les perdus et 1 pour notre ami Satoshi. Tout ceci pour nous dire que ça, c'est le pic et c'est la grande cartographie de la détention. Ça s'explique pourquoi ? Parce que les premiers à venir sur Bitcoin, ça a quand même été des particuliers, où les gens sont venus sur Bitcoin à titre particulier. Maintenant, tout ceci, c'est on va projeter ça avec la courbe actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les gens qui vont acquérir du Bitcoin, c'est en majorité des professionnels.
Des institutionnels.
Donc, les professionnels et les institutionnels, oui, parfois pour le compte des particuliers, puisqu'il y a des gens qui sont venus à Bitcoin, et on l'a vu avec les ETF, ils sont venus à Bitcoin non pas de manière directe, mais de manière indirecte. Donc, on a eu plus de monde qui s'est intéressé à Bitcoin, et on peut dire qu'une des croissances de 2024-2025 a été poussé par l'adoption des ETF ou des Bitcoin Treasury Company.
Oui.
Et si on pousse la courbe un peu plus loin, on se rend compte qu'en 2035, eh bien, les premiers détenteurs de Bitcoin seront les institutionnels, avec, selon les courbes, 11,5 millions de Bitcoin détenus par les institutionnels, et les pauvres indépendants, les pauvres particuliers n'auront plus que 6,7 millions. Donc, ce qui veut dire qu'après, quand on regarde les sous-catégories entre les ETF, les Bitcoin Treasury Company, les gouvernements, parce que les gouvernements, en 2035, c'est à peu près estimé aux environs de 3 millions de Bitcoin.
Ils auront 3 millions de Bitcoin.
Oui, c'est vraiment les perspectives qui pourraient arriver. Là encore, on sait très bien que les perspectives comme ça, on a besoin sûr qu'elles ne soient pas réalisées. Hein, mais il faut bien essayer de se donner des perspectives. Oui. Mais ça, c'est le nœud du problème. C'est-à-dire qu'on a un glissement que moi j'analyse de plusieurs manières, qui est de moins en moins de particuliers vont détenir du Bitcoin et de plus en plus d'entités professionnelles ou d'institutionnels vont détenir du Bitcoin. Pourquoi ? D'abord parce que aujourd'hui, on sait que normalement les gens qui détiennent du Bitcoin à titre personnel en direct, c'est 10% du marché. Bon, pourquoi ? Parce que c'est un peu compliqué. Et on n'a pas encore résolu tous les problèmes de complexité de détenir du Bitcoin à titre direct. La souveraineté, qui amène une certaine liberté, amène une certaine complexité.
Responsabilité aussi.
Responsabilité et complexité.
Que tout le monde n'a pas envie
Donc pour ça, il y a des gens qui ne veulent pas et qui trouvent très pratique d'aller utiliser des systèmes plus centralisés pour détenir. Même si aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui sortent des ETF, on sait très bien que ça rentre, ça sort, et que dès que les marchés vont repartir à la hausse, on va avoir de nouveau beaucoup d'arrivées là-dessus. La deuxième tendance, ce sont bien sûr les gouvernements qui, eux, vont continuer à acquérir, soit, comme savent le faire les Américains, dans une guerre qui est à peu près lancée, ou les Coréens, parce que c'est une manière de conquérir des territoires, hein, et de conquérir un territoire numérique qui est Bitcoin, mais aussi parce que aujourd'hui, on a 27 entités gouvernementales ou paragouvernementales qui acquièrent du Bitcoin de manière régulière ou irrégulière, de manière directe ou indirecte. Mais souvent, tout ceci nous amène à une critique. La critique, c'est de dire, en fait, Bitcoin ne répond plus à sa mission initiale, puisque Bitcoin est devenu une réserve de valeur, si aujourd'hui, ceux qui le détiennent en direct sont devenus minoritaires dans l'ensemble. Et je pense, ça on va s'affleurer sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est faux. Mais vraiment foncièrement faux. Alors bien sûr, Bitcoin est devenu une réserve de valeur pour beaucoup de personnes, notamment des investisseurs du temps long. Pourquoi ? On a un monde qui produit de la monnaie de manière sans fin, et de l'autre côté, on a un actif rare. Donc quand il y a une grosse production monétaire, les gens se tournent vers les actifs rares, ça tombe bien, Bitcoin, 21 millions, c'est rare. Mais si on a bien sûr cette réserve de valeur, la promesse initiale de Bitcoin, elle est toujours réelle, elle est toujours d'actualité. Si j'ai envie, de manière souveraine et non censurable, vous envoyer une fraction de Bitcoin à vous trois, je sais, vous allez me dire merci.
Oui, bon, bien sûr.
On passera aux exercices pratiques après. Bon, si je souhaite le faire, et si on est tous les trois interdits bancaires, si on est tous les trois blacklistés, si tous les trois on ne peut plus échanger d'euros numériques,
eh bien,
la valeur que représente le réseau Bitcoin indépendant, elle est toujours là.
La
promesse initiale de Bitcoin, elle est toujours là. Donc, il faut savoir que la réserve de valeur n'est en aucun cas opposée à la qualité initiale du réseau pair à pair, non censurable, et même il en fait une partie de sa valeur.
Il faut accepter, de toute façon, cette maturité du secteur et le fait qu'on l'utilise aussi de cette façon-là. Ça va de pair. Une réaction, Laetitia Zitto, à ce que vous venez d'entendre sur le changement d'adoption du Bitcoin ?
Pardon, excusez-moi, j'aurais aimé réagir rapidement sur le sujet précédent sur l'euro numérique.
Allez-y.
Parce que c'est assez intéressant de voir que les États-Unis ont fait de leur du dollar numérique, des stablecoins, un outil de financement de leur dette, et nous en Europe on construit un euro numérique public. Donc c'est un peu dommage, je trouve, mais ça montre une vraie différence dans la façon d'aborder les sujets.
Ah oui, bah ça, la différence, oui, c'est vrai qu'on la met souvent en avant. Nathalie Janson, pour terminer, le mot de la fin.
Disons que eux, ils avaient la possibilité, disons que le stablecoin, il a été privé. Nous, en fait, il y en a pas, parce qu'il y a pas de demande d'euros. Je suis désolée pour Christine Lagarde et tout le monde, mais voilà, il est pas né parce qu'il y a pas de demande d'euros à l'extérieur.
Ouais.
Stablecoin, il est né parce qu'il y a une demande de dollars, voilà, parce que tant de pays sont dollarisés. Donc c'est ça leur succès initial.
Voilà pour cette émission. Merci à tous les quatre d'être venus. Grégory Raymond, cofondateur The Big Whale, Louis
Alexandre Froissart, gérant et associé chez Montaigne Conseil et Patrimoine. Nathalie Janson, économiste, professeure à la Neoma Business School, présidente de Génération Libre. Et Laetitia Zito, directrice générale de Paymium. Merci d'avoir été dans cette émission. Émission à retrouver en podcast et en replay sur notre appli, sur notre site. Je vous rappelle que demain, on répond à vos questions, celles que vous nous avez posées sur notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse avec Guillaume Sommerer. Très bonne journée.
BFM Business, BFM Crypto, le club.